c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans Nos Adorés et aujourd'hui nous recevons Bénédicte Costantino qui nous avait déjà fait l'honneur de venir discuter avec nous de la puberté lors d'une émission que vous pouvez retrouver en podcast, c'est l'émission du 3 décembre 2019 et on avait à ce moment-là évoqué son parcours, on avait évoqué son adolescence et on voudrait gagner un peu de temps toutes les deux, on s'est dit qu'on n'allait pas réaborder tout ça et que vous pouvez trouver les infos dont vous aurez besoin pour mieux comprendre Bénédicte sur le site internet, sur le podcast. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous.
Je suis très contente de revenir à votre micro.
Merci beaucoup. Donc dans la première émission, on avait abordé la puberté, on avait abordé certaines idées reçues aussi par rapport à l'anatomie et on avait répondu à des questions d'ados. Aujourd'hui, on aimerait bien parler un peu plus de la sexualité, précisément quoi, et dans les détails. Donc il va falloir s'accrocher pour certains, mais on s'est dit que c'était important de parler des choses concrètement et d'arrêter de tourner autour du pot. Hein.
On peut parler sexualité sans être vulgaire, avec des termes complètement neutres ou médicaux. Donc voilà, sexualité ne veut pas dire vulgarité, donc il n'y a pas besoin d'éloigner les ados du poste, au contraire.
Au contraire, oui. Ouais. Et eux, finalement, je crois que quelquefois, ils sont presque plus à l'aise dans ce genre d'échange que nous. Hein, bah, avec eux, je veux dire.
Voilà, les adultes ont beaucoup de tabous qu'ils ont intégrés depuis longtemps, et en fait, les adolescents, parfois, sont un peu plus libres que nous, en fait.
Exactement. Et du coup, il y a quand même certains ados qui trouvent que le développement de leur désir est inquiétant ou anormal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, commencer à éprouver du désir sexuel, c'est complètement normal à l'adolescence. C'est également à cet âge qu'on commence souvent à se masturber, à penser beaucoup aux relations sentimentales ou amoureuses, et où parfois les premières questions sur l'orientation sexuelle peuvent apparaître. Mais ça peut être effectivement perturbant pour ces ados parce que c'est nouveau, on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive, on a un peu honte et on sait pas quoi en faire de ce désir. Car il faut rappeler qu'on peut avoir du désir sexuel sans pour autant vouloir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un.
Exactement, c'est complètement différent et c'est très intéressant de le préciser.
Ouais.
Voilà. Et donc, dans ces cas-là, est-ce qu'un parent doit parler à son ado par défaut, c'est-à-dire se dire « Oula, ding-dong, tout à coup, puberté étant arrivée, il faut qu'on aborde toutes ces questions-là ou pas ?»
Je pense que c'est très très variable suivant les familles et les relations parents-ados. C'est un peu difficile de donner une réponse générale. Mais je pense qu'en tant que parent, c'est toujours bien d'évoquer en quelques mots avec son ado ces questions autour de la puberté, du désir, de la sexualité. Juste pour lui montrer qu'on n'est pas fermé sur ces sujets, que ce n'est pas des sujets honteux ou tabous. Après, bien sûr, si l'ado ne souhaite pas en parler, il ne faut pas insister. L'ado sait qu'il peut en parler si besoin et il reviendra naturellement vers ses parents quand il en aura envie ou quand il sera prêt à en parler.
D'accord, merci. Donc, on se dit comme ça, automatiquement, que la mère va parler à sa fille, que le père va parler à son fils. Vous en pensez quoi de ça ? S'il y a démarche de parole ?
Pour des questions purement physiques, on va dire, sur les règles, les érections matinales, par exemple, c'est effectivement plus classique de parler aux parents du même sexe, vu qu'il expérimente ça dans son propre corps.
D'accord.
Pour les autres questions, encore une fois, ça dépend vraiment des relations entre l'ado et les parents. Et les deux parents peuvent évoquer ces sujets. Ça va surtout dépendre, en fait, du parent vers lequel l'ado va se tourner spontanément.
D'accord. Donc l'âge du premier rapport sexuel en France, que ce soit pour une fille ou pour un garçon, c'est autour de 17 ans et demi. C'est étonnant, non ? On a l'impression qu'ils sont très, très vifs sur la sexualité, finalement.
L'âge de 17 ans, c'est un âge médian. Donc ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui ont eu leur premier rapport avant 17 ans que de personnes qui l'ont eu après.
Vrai.
Donc moi, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à avoir son premier rapport ni à 15, ni à 20, ni même à 30. En fait, en termes de sexualité, il n'y a pas de normes, tant que le rapport est bien sûr consenti et satisfaisant pour chacun des partenaires. Mais il n'y a pas de normes en termes d'âge, pour la première fois, en termes de fréquence, en termes de pratique. Chacun doit vraiment aborder sa sexualité selon son propre rythme et ses propres envies.
D'accord. Donc l'âge médian, c'est vrai que c'est bien que vous le rappeliez. Parce qu'on a l'impression du coup qu'on doit se situer dans cette zone et que si on n'y est pas, c'est terrible. Donc, pourtant, les ados sont confrontés très jeunes à des images à caractère pornographique. On en avait parlé un petit peu lors de la première émission. Donc, d'après une enquête Ipsos, à 15 ans, un ado sur deux a déjà consulté un site pornographique. Je pense que du coup, il en a fait la démarche, a priori. Hein. Malgré cela, donc, on a dit que l'âge du premier rapport sexuel n'a pas vraiment évolué depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça dit exactement ?
Alors, déjà, avec les smartphones, la pornographie, c'est effectivement accessible en 3 clics. Donc, moi, je pense même que ce chiffre d'un ado sur deux est sous-estimé. Après, moi, en tant que gynécologue, mes patientes, elles me parlent rarement directement de pornographie. Mais je pense sincèrement qu'il peut avoir certains problèmes concernant la sexualité qui découlent justement d'un visionnage répété de pornographie et notamment si on en regarde avant d'avoir eu soi-même ses premiers rapports. Parce que la pornographie, on le rappelle, c'est du cinéma, c'est pas la vraie vie. Quand on regarde un film d'action ou de super-héros, on arrive à prendre ce recul. On sait que c'est pas comme ça en réalité. Oui. Quand on regarde la pornographie, et surtout quand on n'a aucune expérience, parfois, on peut prendre ça comme un espèce de mode d'emploi et par la suite, essayer de reproduire dans la vraie vie ce qu'on a vu dans ces films. Et c'est là que ça peut être vraiment, vraiment embêtant. Parce que la pornographie mainstream, entre guillemets, c'est-à-dire gratuite et grand public, elle montre beaucoup de comportements problématiques. Déjà au niveau du consentement, parce que dans la pornographie, les partenaires, et souvent les femmes, elles semblent pas toujours consentir au rapport, voire ils semblent même parfois imposer. Alors que dans la vraie vie, un rapport non consenti ou imposé, c'est un viol.
Tout à fait.
Après, dans la pornographie médecine, c'est aussi très caricatural, dans les pratiques, très stéréotypé. Donc ça peut un peu enfermer les gens dans ces schémas-là. Mm-hmm. Ça peut aussi, on en avait parlé, donner des complexes sur son corps quand on se compare au corps des acteurs. Et enfin, je pense qu'elle présente aussi une sexualité qui est plus tournée vers la performance de l'acte sexuel que vers le plaisir de chacun des partenaires. Donc, pour toutes ces raisons, visionner de la pornographie, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut vraiment réussir à faire la part des choses entre la pornographie et la vraie vie.
Donc les parents aussi doivent conduire là-dessus s'ils constatent que l'ado visionne de la pornographie ?
Ils pourront pas interdire à l'ado de toute façon de visionner de la pornographie. Donc je pense
lui dire que c'est pas la vraie vie.
Exactement. L'accompagner d'une parole en disant voilà, il y a ça, mais c'est pas la vraie vie. Ça reste du cinéma et dans la vraie vie, tu découvriras comment ça se passe et c'est pas comme dans ces films.
D'accord. Donc les statistiques en fait contredisent un peu toutes ces enfin, disons, ce visionnage, je ne sais pas pourquoi je dis visualisation à chaque fois, qu'est-ce que ça dit ? Bref, donc les ados, ils semblent être très au courant de ce qui se passe sexuellement, voire même un peu trop, voire même d'une manière
tôt,
un peu biaisée. Voilà. Mais par contre, ils ritualisent beaucoup le premier baiser, le reste, etc. C'est marrant parce que, oui, on a l'impression d'une espèce de carte du tendre, il faut passer toutes les étapes pour avoir le droit, enfin, de regarder les genoux de la promise. Donc, on se touche peu ou pas. Et tous me le disent, ils attendent le bon moment.
Ben, moi, je pense que c'est justement très bien de prendre son temps. La sexualité à l'adolescence, le plus souvent, elle arrive par étapes. On se tient, on va d'abord se tenir la main, on s'embrasse, on va se prendre dans les bras, on commence à se toucher, sans forcément dans des endroits intimes, on commence à ressentir du désir, etc. Donc, c'est vraiment des étapes importantes parce que ça permet de découvrir les choses petit à petit.
Ouais.
Donc, c'est moins impressionnant. Ça permet au partenaire de s'apprivoiser, entre guillemets. Et je pense que ça permet tout simplement de le vivre de manière beaucoup plus apaisée. Bah, d'ailleurs, chez les adultes, quand on commence une relation, on y va aussi parfois par étapes, parce que c'est une nouvelle personne, donc c'est différent et c'est toujours un peu nouveau.
Oui, c'est vrai. Les ados, ils sont-ils, d'après vous, prudents dans leur pratique sexuelle ? Je parle ici des maladies sexuellement transmissibles, notamment. Le préservatif, ça semble être, quand on les interroge, la condition sine qua non à tout rapport sexuel. Mais est-ce que c'est bien le cas, concrètement ?
Ben, malheureusement, au vu du nombre d'IST, le préservatif est loin d'être systématique lors de rapports avec un nouveau partenaire. Rien que pour la chlamydia, donc qui est l'IST la plus fréquente, il y a presque 300 000 nouveaux cas en France chaque année. Donc, il faut effectivement continuer de rappeler l'importance du préservatif. Et notamment parce qu'il y a parfois des jeunes qui pensent que si on a un autre moyen de contraception, c'est bon. Mmh. Alors qu'un moyen de contraception, ça ne protège que du risque de grossesse.
Tout
pour,
à fait.
Pour les IST, il n'y a que le préservatif qui protège. C'est pour ça qu'il faut utiliser à chaque nouveau partenaire un préservatif et faire un bilan d'IST avant d'arrêter éventuellement le préservatif. Ces bilans d'IST, ils peuvent être prescrits par n'importe quel médecin, que ce soit gynécologue, médecin traitant, par n'importe quel médecin. Et on peut aussi facilement les réaliser dans ce qu'on appelle les CEGID. C'est les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Donc, c'est des centres qui permettent de faire des bilans d'IST gratuits, sans rendez-vous, anonymes. Voilà. Et ils sont présents partout en France. Et d'accord. À Strasbourg, le CEGID, il est situé au Nouvel Hôpital Civil.
Ah oui, très bien, c'est bien de le préciser. Donc en tant que parent, quand vient la prise de décision concernant la contraception, on est parfois un peu perdu et paniqué, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour apaiser les peurs souvent liées à des a priori ? Est-ce que la pilule est dangereuse ? Est-ce que c'est grave de la prendre tôt ?
Alors déjà, il y a beaucoup de moyens de contraception et chacun doit trouver celui qui lui convient. Il y a effectivement la pilule, mais il y a aussi le patch, l'anneau, l'implant, les stérilets et bien sûr les préservatifs dont on vient de parler. Pour la pilule féminine, alors on entend beaucoup de choses assez erronées, un peu comme pour les vaccins d'ailleurs, alors que déjà il n'y a pas une pilule, il y a plus de 30 pilules différentes, parce que justement chaque femme est différente et peut donc réagir différemment à une pilule donnée.
D'accord.
La pilule, effectivement, comme tous les médicaments, elle peut avoir des effets indésirables. Donc, c'est ce que je conseille toujours. Quand on commence à utiliser une pilule ou un autre moyen de contraception, il faut toujours être attentif qu'il n'y ait pas d'effets indésirables qui apparaissent. Et si jamais ça ne convient pas, que ce soit à cause d'ailleurs d'effets indésirables ou tout simplement parce qu'on l'oublie parfois, hein, la pilule, c'est très efficace en théorie. En pratique, si on l'oublie, faut vraiment pas hésiter à aller rediscuter une contraception avec son médecin ou sa sage-femme pour trouver soit un autre moyen de contraception, soit une autre pilule qui convient mieux. Mais juste pour rassurer tout le monde, en soi, non, la pilule n'est pas dangereuse, même si elle est prise tôt et même si on la prend pendant longtemps.
Ça reste quand même une invention magnifique qui a libéré les femmes, il ne faut pas l'oublier.
Exactement. Donc après, c'est, en médecine, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et tous les médicaments, notamment des médicaments qu'on prend de façon quotidienne, peuvent avoir des effets secondaires. Mais voilà, il y a plein de femmes qui sont très satisfaites et qui sont très bien sous pilule. Il y a effectivement des dames qui ne supportent pas bien la pilule. Dans ces cas-là, il faut la changer. Mais voilà, il ne faut pas faire de généralité, je pense.
D'accord. Merci pour ce rappel. Lorsqu'on préparait cette émission, vous avez souligné le décalage qui peut exister chez les ados entre ce qu'ils pensent connaître de l'anatomie des organes génitaux et la réalité, en l'occurrence les leurs. C'est lié, d'après vous, à la consommation de films pornographiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de décalage ?
Alors, la pornographie, effectivement, elle peut être à l'origine de complexes chez les ados concernant leur anatomie, parce que comme la pub, la pornographie, elle ne montre pas le corps de la majorité des gens.
Oui.
Donc, pour les garçons, la taille du pénis qui est montrée dans la pornographie est loin d'être la taille moyenne. Et ça peut les complexer quant à leur
propre
pénis.
Ils sont un peu sélectionnés sur cette base aussi, les acteurs, faut pas oublier.
Exactement. Et pour les filles, les vulves montrées dans la pornographie, on en avait déjà parlé,
oui.
Mais elles ressemblent à des vulves prépubères, c'est-à-dire sans poils et avec des petites lèvres qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas du tout naturel comme aspect. Alors, bien sûr, pour les poils, parce que ça nécessite une épilation.
Mmh.
Et pour les petites lèvres, cet aspect peut être naturel, mais c'est parfois et souvent, chez ces actrices, lié à une chirurgie en fait, qu'elles ont subie. Pour les seins, c'est un peu pareil. Ils sont souvent très gros. Et là aussi, ce n'est pas toujours naturel. Et ça peut être lié à une chirurgie. Alors oui, la chirurgie de la vulve, c'est ce qu'on appelle la nymphoplastie.
Wow.
C'est aller couper la partie des petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres.
Dieu.
Alors que le fait d'avoir les petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres est complètement normal chez une femme après la puberté. Donc voilà, c'est vraiment ce décalage entre ce qu'on voit et son propre corps qui peut parfois créer des complexes alors même qu'on a un corps qui est strictement normal.
Oui, effectivement. Je reste sans voix, en fait, sur la chirurgie de la vulve. Donc, on nous conseille souvent de faire vacciner nos filles, et apparemment maintenant les garçons également, d'ailleurs, nouvellement, j'ai lu ça, contre le papillomavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, le papillomavirus, c'est le virus qui est à l'origine du cancer de col du col de l'utérus. C'est d'ailleurs un des seuls cancers de la femme jeune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de faire des frottis à partir de 25 ans.
D'accord.
Le papillomavirus, il peut aussi être à l'origine d'autres cancers moins fréquents ou de condylomes. Donc en France, pour l'instant, et contrairement à d'autres pays, la vaccination, elle est seulement recommandée pour les jeunes filles. Alors, normalement, elle est recommandée entre 11 et 14 ans. Mm-hmm. Dans ces cas-là, on fait deux injections à 6 mois d'intervalle. Les indications ont été un petit peu élargies, c'est-à-dire que maintenant, on peut le faire en rattrapage jusqu'à 19 ans.
D'accord.
Mais là, il faudra faire 3 injections à 2 mois et à 6 mois de la première.
D'accord. Très bien, merci. À quel âge, plus basiquement, est-il conseillé de prendre rendez-vous chez un médecin gynécologue ? Je sais qu'on l'avait un petit peu abordé dans la première émission, mais c'est jamais inutile de le rappeler.
Alors, il n'y a pas vraiment d'âge recommandé.
Oui.
Si on a des symptômes gynécologiques, comme des règles douloureuses ou abondantes, on peut consulter dès que ces symptômes apparaissent. Sinon, on peut consulter un peu plus tard, quand on a besoin d'informations sur la contraception ou sur la sexualité. Et pour assurer, parce que c'est souvent ce qui fait peur quand on va chez le gynéco, avant 18 ans, sauf problème particulier, il n'y a pas d'indication à faire un examen gynécologique. D'ailleurs, même plus tard, l'examen gynécologique est certes conseillé, mais ce n'est jamais obligatoire. Toute femme peut aller chez un gynéco et ne pas souhaiter avoir un examen gynécologique. Ce n'est jamais imposé.
Encore faut-il qu'on lui demande et qu'on lui précise que ça peut être refusé. Parce que souvent, il y a une sorte de culpabilisation aussi. Ah ben, si vous ne faites pas ce qu'il faut...
Voilà, ben, c'est vrai qu'on on a discuté la première fois. Mais
oui.
Je pense que moi, en tout cas, ça m'arrive extrêmement, extrêmement rarement d'avoir des femmes qui refusent un examen gynécologique. Parce que si on leur explique ce qu'on fait, si on y va... si on y va doucement et avec bienveillance, il n'y a pas de raison qu'il y ait un refus. Mais en tout cas, voilà, faut pas laisser un médecin imposer un examen gynécologique si la femme en a pas envie. Donc voilà, faut pas qu'une femme se sente culpabilise de refuser un examen gynécologique si elle en a pas envie, pour n'importe quelle raison qui peut être très diverses et qui lui sont propres. Elle peut venir pour discuter avec le médecin, avoir une prescription, mais sans examen gynécologique.
Après, c'est quelque chose que j'imagine vous pouvez discuter dans le cadre de la consultation et peut-être rassurer.
Exactement. Et parfois, les femmes viennent aussi en disant qu'elles n'ont pas forcément envie parce qu'elles ont leurs règles ou parce que un examen gynécologique précédent s'est mal passé. Je lui dis qu'il n'y a aucune obligation. Je lui explique en quoi ça consiste. Et c'est vrai que souvent, elle me dit OK, on peut essayer. Et voilà, faut toujours leur laisser la porte ouverte en disant c'est pas parce que vous dites là maintenant OK pour l'examen gynécologique que vous pouvez par la suite retirer votre consentement et dire finalement pour moi aujourd'hui c'est trop compliqué. Dans ces cas-là, souvent je leur dis écoutez, venez dans 3 mois, dans 6 mois, quand vous vous sentirez plus prête, et il n'y a aucun souci. Et ça sert à rien de culpabiliser ou d'engueuler entre guillemets la patiente, parce que là c'est sûr que ça peut créer un blocage et vraiment avoir une femme qui aura plus du tout jamais envie de retourner chez un gynécologue.
Ouais, non, mais je me disais que peut-être le ou la gynécologue allait culpabiliser à l'idée de passer à côté de quelque chose, quoi.
Après, d'un point de vue médico-légal, c'est-à-dire on le note dans le dossier si la patiente a refusé un examen gynécologique. Mais c'est pour ça qu'on ne lui dit pas de revenir un an après. On lui dit, moi, j'ai plutôt tendance à leur dire de revenir 3 mois après.
D'accord.
Pour justement être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, qu'on puisse réaliser un frottis s'il faut réaliser un frottis et faire un examen gynécologique pour être sûr qu'on ne passe pas effectivement à côté de quelque chose chez cette femme.
Ouais. Merci pour ces précisions. Donc on a évoqué un peu la sexualité avec un ou une partenaire. Par contre, apparemment, peu d'ados connaissent bien leur anatomie, je vais y arriver, et plus de 80% des adolescentes ignorent même l'existence de leur clitoris, qui d'ailleurs est un peu, voire pas du tout, représenté dans les manuels scolaires sur le sujet.
Alors, pour moi, l'absence du clitoris dans les manuels d'éducation sexuelle, c'est juste hallucinant. Parce que le clitoris, c'est justement l'organe du plaisir sexuel chez la femme. Il y a d'ailleurs eu une forte mobilisation sur les réseaux sociaux et une pétition même pour alerter le ministère de l'Éducation à ce sujet. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas où est le clitoris ou à quoi il ressemble...
Situons-le.
Voilà, vous allez tous... Enfin, on peut le situer, donc... il est situé en fait à la jonction des petites lèvres, la jonction supérieure des petites lèvres. Après, vous pouvez aussi tout simplement aller taper clitoris dans Google. Vous allez dans les résultats images, parce que parfois, même si on sait le situer, c'est souvent seulement la partie externe du clitoris,
oui, c'est très
celle qui est visible, qui est connue, exactement.
Mm.
Alors qu'en fait, c'est une petite partie de l'organe. Le clitoris en lui-même est beaucoup plus grand. Il mesure, on estime, entre 8 et 12 cm. Et la majeure partie du clitoris est interne, on ne la voit pas. C'est je comprends tout à fait que ça peut être difficile hein, pour les ados ou pour les parents de parler de ces sujets-là. Mais je pense qu'on peut l'évoquer de manière neutre en disant simplement que le clitoris chez la femme et le pénis chez l'homme sont les organes du plaisir sexuel. Après, si l'ado pose pas plus de questions, on ne veut pas en parler, il n'y a pas de souci, on respecte son choix, il peut trouver des informations, mais voilà, juste qu'il en ait entendu parler, souvent il ira, voilà, ça va un petit peu attiser sa curiosité et l'ado ira de lui-même se renseigner.
Non, et puis surtout répéter encore une fois que se connaître son corps, c'est aussi ça le début de la sexualité.
Voilà, exactement. Si pour les femmes, si on ne sait pas situer son clitoris, parce que pour les hommes, a priori, tous les hommes savent situer leur pénis, si on ne sait pas situer son clitoris, ça peut vraiment être compliqué pour la sexualité. Et c'est vrai qu'il y avait eu des études qui avaient été faites chez des enfants, chez des pré-ados, où on leur demandait de dessiner des organes génitaux externes masculins et féminins. Mm-hmm. Bah, quasi tous les enfants et les pré-ados savent dessiner hein, des organes génitaux externes masculins. Pour les femmes et pour les jeunes filles, comme vous disiez, 80% des jeunes filles ne savent pas dessiner des organes génitaux féminins. Et effectivement, ça peut vraiment être très, très compliqué par la suite pour leur sexualité.
Oui, et le fait de penser aussi qu'une sexualité passe systématiquement par la pénétration.
Alors ça, effectivement, pour la reproduction, effectivement, oui, la pénétration vaginale, oui, c'est mieux. Mais actuellement, je pense que l'immense majorité des rapports n'ont pas un but reproductif. Le but des rapports, c'est un but de récréatif, c'est-à-dire d'avoir du plaisir. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément de plaisir avec les pénétrations vaginales, voire où elle peut être douloureuse. Parce que, effectivement, si on pense que la sexualité se résume à une pénétration vaginale, c'est très compliqué d'avoir une sexualité épanouissante. Parce que justement, on met un petit peu de côté le clitoris, même si celui-ci est stimulé lors de la pénétration vaginale. Mais il faut savoir que pendant longtemps, on parlait d'orgasme clitoridien versus d'orgasme vaginaux. Un orgasme vaginal, ça n'existe pas. L'orgasme vaginal, c'est une stimulation indirecte du clitoris.
Ah oui, d'accord.
Mais pour que la pénétration vaginale soit source de plaisir, faut quand même en amont avoir une excitation, une stimulation clitoridienne, enfin au moins une excitation pour que justement le clitoris gonfle et puisse être stimulé lors de la pénétration vaginale. Donc effectivement, c'est une pratique qui est très courante, la pénétration vaginale, mais ça n'est jamais obligatoire lors d'un rapport et c'est vraiment extrêmement réducteur de réduire la sexualité à ça.
Mais c'est vrai que la pornographie nous donne aussi cette impression qu'il faut forcément être pénétré pour que les deux soient satisfaits. Et ça, c'est un peu plaisir aussi.
Mais la pornographie, le plaisir dans la pornographie est souvent complètement simulé. C'est des acteurs, hein, ils simulent leurs émotions et leur plaisir. Mm-hmm. Et effectivement, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, la pornographie, elle est très caricaturale et elle montre des schémas de rapports qui sont pas des schémas qu'on retrouve forcément dans la vie de tous les jours et qui sont pas forcément source de plaisir. La pénétration vaginale, c'est ni l'alpha ni l'oméga. Et j'en profite aussi pour dire que souvent dans la pornographie, quand un des partenaires, à savoir l'homme, atteint l'orgasme, ça signe la fin du rapport, alors que justement, on peut très bien continuer à avoir un rapport avec une stimulation par les doigts, par la bouche, par la langue. Donc voilà, encore une fois, la pénétration vaginale, ce n'est pas une fin en soi.
D'accord, merci beaucoup.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique
Les ados vous conseillent.
Donc je me suis aperçue en discutant avec Bénédicte que ce que les ados voulaient nous conseiller était interdit moins de 18 ans. Donc comme je disais, les jeux vidéo interdits moins de 18 ans, ça passe très bien. Mais par contre, les podcasts érotiques interdits moins de 18 ans, on va éviter. Hein, on en pense ce qu'on veut.
Malheureusement.
Voilà. Donc Bénédicte, vous m'avez entre-temps, vous avez porté à ma connaissance un compte Instagram qui est plutôt chouette. Racontez-nous.
Alors moi, je voulais le conseiller aux ados ou même aux parents. C'est un compte qui s'appelle Orgasme et moi. Donc c'est un compte Instagram. Instagram, qui parle de sexualité, mais qui parle de sexualité de manière à la fois très très ouverte et très très bienveillante. Ça parle effectivement aussi beaucoup de consentement. Il y a des témoignages de beaucoup de personnes qui racontent un petit peu leur sexualité, aussi leur réveil concernant une sexualité plus ouverte sur l'autre, plus diverse. Et si on se pose des questions, il y a en story permanente plein de témoignages sur différentes pratiques sexuelles. Donc bien sûr, c'est pas on va pas essayer toutes les pratiques sexuelles qui sont relatées, mais je pense que ça peut être intéressant si on a besoin d'informations ou tout simplement pour s'ouvrir l'esprit.
Oui, tout à fait. Donc, merci encore pour cet échange riche, comme toujours avec vous. Merci, docteur Costantino, d'être venu nous voir. Et on vous dit à bientôt pour une émission sur le consentement.
À bientôt.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,